Vous êtes bien sur Esprit Occitanie, la radio web à la carte. L'oiseau blanc, Philippe Trousselard, bonjour. L'oiseau blanc avec aujourd'hui
Jean-Pierre Marson.
Bonjour Monsieur Marson.
Bonjour.
L'oiseau blanc reprend son vol sur la programmation d'Esprit Occitanie après 2 années d'interruption qui ont beaucoup contraint nos activités personnelles, sociales, mais aussi ce secteur de l'aéronautique qui parfumait tant jusqu'alors la passion de ses acteurs. Il n'a pas été facile de reconsidérer cette passion, de la remettre en cause, de la remodeler à l'aune de cette période, espérons-le, d'espérance retrouvée. Monsieur Marson, un grand merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation que nous avons mise en stand-by tous les deux depuis en effet un temps si long. Vous êtes le président des éditions CEPADUES qui sont localisées rue Vauquelin à Toulouse, dans ce bâtiment si caractéristique de forme circulaire. Ce bâtiment, les Toulousains qui roulent sur le périphérique l'aperçoivent au niveau du passage aérien de la ligne A du métro, mais aussi donc en tant qu'usagers de cette ligne. Puisqu'il est question dans cette émission d'aéronautique, quel pilote n'a pas eu en main cette mallette du pilote d'avion contenant le manuel avion permettant de préparer la licence de pilote privé avec son livret de progression, ses fiches en rapport avec la préparation et la gestion du vol, la connaissance de la structure, des données météo et bien plus encore. Vos éditions font, je le pense, partie intégrante de cette spécificité aéronautique de Toulouse. Durant cette heure que nous allons partager, nous voudrions mieux connaître cet ancrage de votre société au cœur de Toulouse, l'enveloppe de ses productions, y compris celle du domaine aéronautique qui nous concerne, il est vrai prioritairement. Vous allez certainement nous dire que cette mallette du pilote d'avion dont je parlais n'est qu'une petite partie de votre catalogue, pour ne pas dire de vos catalogues. En complément de ce domaine de la production, vous nous aiderez aussi à connaître celui de la diffusion, car, et je parle ici sous votre contrôle, l'activité d'une maison d'édition telle que la vôtre rassemble production et diffusion. Mais avant de découvrir ce cœur battant du livre à l'intérieur de ce bâtiment circulaire des éditions CEPADUES, l'oiseau blanc reste fidèle à son besoin de mieux connaître l'humain. Je dirais l'homme avec un grand H, derrière son activité. Aussi, Monsieur Marson, pourriez-vous nous confier qui vous êtes et quel chemin vous a conduit à devenir le président des éditions CEPADUES ?
Alors, c'est vrai que souvent, donc, quand on entre entre guillemets, dans le monde de l'édition, on a suivi des formations spécifiques. On s'est préparé au métier de l'édition, ce n'était pas du tout mon cas. Il se trouve que les éditions CEPADUES, c'était mes clients. J'étais conseil en formation continue et donc c'est, je n'irai pas par hasard parce qu'il n'y a pas trop de hasard finalement, mais donc c'est ainsi j'ai été embauché aux éditions CEPADUES. Effectivement, à l'époque, nous étions dans le bâtiment rond. Et pour rester très toulousain depuis AZF et donc les explosions, on a déménagé, mais en restant sur le même site, à la même adresse, et donc dans le bâtiment rond, il y a une imprimerie qui était une société sœur de CEPADUES, qui est maintenant une société distincte. Donc je suis effectivement entré aux éditions CEPADUES presque par hasard. Je me suis retrouvé 3 semaines après à mon premier salon du livre, Porte de Versailles. Sans trop rien connaître à l'édition. Donc, mais bon, une formation Subdeco fait que... Enfin, on ne dit plus Subdeco aujourd'hui, c'était TBS, hein, mais Subdeco à l'époque. Donc fait qu'on nous préparait à tous les univers de l'entreprise. Donc on est formaté, préparé pour s'adapter à toutes ces conditions-là. Et à vrai dire, quand j'ai intégré CEPADUS, je pensais, puisque c'est ce qu'on nous avait enseigné, nous jeunes étudiants, qu'on allait être dans, il fallait se préparer à passer d'entreprise à entreprise. Et donc, je me disais, bon, si j'y reste 2, 3, 4, 5 ans, ça sera le bout du monde. Et puis, quand même, ce qui m'étonnait, c'est que je voyais que mes petits camarades, confrères me disaient, moi, j'ai 10 ans d'ancienneté, j'ai 15 ans, j'ai 20 ans, j'ai 25 ans. Je me disais, mais c'est. Comment se fait-il que. Et effectivement, il faut croire que quand on intègre le monde de l'édition, on y reste. Alors je pense qu'il y a au moins deux raisons pour cela. D'abord, c'est vrai que c'est un métier qui est intéressant, donc on ne s'échappe pas en disant plus jamais ça et je veux changer de métier. Ça, c'est une raison. Et puis aussi, c'est un métier où on a la chance de pouvoir capitaliser, c'est-à-dire que comme c'est basé sur le rationnel, sur le réseau, en prenant de l'âge, on prend de l'expérience, on étoffe son réseau et donc en fait on se bonifie. C'est un côté un peu prétentieux, mais je le crois profondément en fait.
Et dans votre présentation, j'ai regardé un petit peu votre, bien évidemment, votre site et vos documents. Et il est dit, pour présentant la société CEPADUS, maison d'édition de livres scientifiques et techniques. Et j'ai découvert une signature complémentaire dans un catalogue qui est transmettre le savoir. Alors aujourd'hui, vous en êtes où par rapport à ce premier objectif en fait d'édition de livres scientifiques et techniques et plus globalement transmettre le savoir? Parce que ça me semble beaucoup plus large que votre définition
Alors,
initiale.
je vais utiliser un verbe que j'aime bien, je vais vous rectifier. C'est transmettre les savoirs. Et parce qu'effectivement, le savoir, c'est peut-être prétentieux. Et donc, transmettre les savoirs. Alors, c'est vrai que je viens du monde de la formation continue. Donc, une certaine sensibilité à tout ce qui est pédago. Et CEPADUS, c'est avant tout un éditeur d'ouvrages, disons au sens large, hein, d'ouvrages, ou peu importe le support, qu'il soit numérique ou papier, d'ouvrages à vocation pédagogique. Ça, c'est la cohérence d'ensemble de notre production, à part quelques exceptions que l'on peut tout de même s'autoriser. Et donc, je cherchais une signature, en fait, qui me semblait surtout en cohérence. Et je ne crois pas qu'elle soit prétentieuse, donc c'est pour cela qu'elle me semble pertinente, parce qu'en fait, on permet à ceux qui savent de, ben justement, de transmettre, d'apporter au lecteur leur savoir. Et j'aime souvent dire que ben, nous, en tant qu'éditeurs, on ne connaît rien, et on n'a pas à connaître surtout, c'est-à-dire on n'a pas à influencer le contenu. Par contre, notre job, c'est d'accompagner les auteurs dans leur démarche pédagogique. De la même façon que quand j'étais dans le monde de la formation continue, il faut accompagner le formateur pour qu'il puisse dispenser le plus efficacement possible sa formation dans les 2, 3, 4, 5 jours de formation. Et là, c'est la même chose, si ce n'est que ce sont 100, 200, 300 pages pour arriver à atteindre les objectifs fixés. C'est très très parallèle les deux mondes, le monde de la formation continue et de l'édition, encore une fois, pédagogique, bien évidemment.
Alors avant d'aborder les points plus particuliers avec l'aéronautique et votre catalogue spécifique, il me vient finalement une question par rapport à ça. Vous parlez de formation continue. Est-ce que vous considérez que le livre est plus adapté à la formation continue aujourd'hui? Le livre papier, j'entends, hein.
Alors, ma conviction, et depuis pas mal d'années, on peut faire référence aussi, peut-être on aura l'occasion d'en parler à l'époque où on parlait du multimédia, ou peut-être on parlera de la foire du livre de Francfort, et donc où on pensait que le livre allait mourir, quoi, en disant Francfort va devenir la foire du multimédia. Ma conviction, c'est que pour l'acquisition des connaissances, pour les fondamentaux, les fondements, les fondations de la connaissance, le support papier est parfaitement adapté. Et je je ne l'oppose pas, ce support, au support numérique qui lui permet de réviser, où là on peut s'autoriser de zapper, de papillonner, ce n'est pas grave. Donc le papier a toute sa place, et preuve en est, en tout cas aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, preuve en est que le poids du papier, et ce que je puis dire, et le poids économique du papier est évidemment extraordinairement plus lourd que le poids du numérique. Et sans mauvais jeu de mots, parce que les cartons de livres pèsent, et les palettes de livres pèsent très très lourd, effectivement.
Alors, vous venez de parler du poids du papier, du poids et de son poids économique. Vous pourriez nous dire, le papier, il a augmenté de combien là, ces derniers mois ou ces dernières années ?
Je suis infichu de vous répondre, hein, parce que c'est vrai que quand on demande un devis pour un ouvrage, eh bien, on ne se préoccupe pas de... On demande en fait à l'imprimeur de nous faire un devis, tel produit, tel format, quadri ou pas, couleur ou pas, nombre d'exemplaires, ainsi de suite, livraison à tel endroit. Et donc c'est vrai qu'on ne s'en préoccupe pas. Les imprimeurs ne sont pas à la fête parce que c'est compliqué pour eux, c'est une activité qui est difficile. Et donc ils doivent, mais c'est vrai oui qu'ils font face à des difficultés d'approvisionnement, mais je dirais comme toute société par les temps qui courent, quoi. Je crois que si on fabriquait du yaourt, on dirait qu'on a des difficultés pour fournir, quoi. Les produits, on entend que ça, les difficultés que l'on peut avoir. Donc le prix du papier, mais au final, ce n'est pas le prix du papier qui va nous compliquer les choses, en fait. Le calcul économique, quoi. Le calcul économique fait qu'il faut, surtout, il ne faut pas se planter sur la qualité de l'ouvrage que vous allez éditer, bien évidemment. Ça paraît évident, mais il ne suffit pas de le dire. Et surtout, il ne faut pas se planter sur le tirage que vous allez viser. Et ça, c'est l'inconnu, puisque on ne sait pas toujours où on met les pieds, bien évidemment, quoi.
Alors, on vient de parler de papier, on a parlé tout à l'heure du catalogue en lien avec l'aéronautique, la formation continue. Si je prends que mon exemple personnel, je dirais votre livre, le manuel du pilote, hein, qui a évolué, qui s'est terminé, enfin terminé, qu'on a retrouvé après dans une mallette, ce qui n'était pas le cas de mémoire au début. Hein. La mallette est devenue belle, confortable. Mais ce livre, mon expérience, c'est que plus d'une fois, je l'ai repris, et pourtant il avait quelque ancienneté, je le reprenais, et puis je relisais en tant que pilote les quelques points qui m'étaient utiles. Cette introduction pour vous demander aujourd'hui, dans le cadre du catalogue de l'aéronautique, donc formation continue, formation initiale aussi aux pilotes, vous pourriez nous présenter un petit peu votre catalogue ?
Alors, le catalogue, alors quand vous parlez aéronautique, c'est vrai que c'est un chapitre de nos catalogues.
On est bien d'accord.
On peut parler de catalogue général et puis de catalogue thématique. Donc, sciences exactes, sciences dures, maths, physique.
Si vous le permettez, on reviendra après sur les autres catalogues.
Voilà. Voilà. Et donc, alors, si on reste sur le créneau aéronautique, c'est vrai que l'on a la chance d'être l'éditeur depuis l'origine, en fait. Hein. De tous ces manuels, des manuels de référence, des manuels du pilote, avion, ULM, planeur, ballon également, donc ça, drone aujourd'hui, qui fait partie de l'univers aéronautique, donc on a la chance d'avoir ces manuels qui sont reconnus comme étant des manuels de référence, même si on a de la concurrence face à nous, ce qui est logique et normal. Je ne veux pas dire souhaitable, on n'est pas sadomaso quand même, mais bon, c'est dans l'ordre des choses. Donc on a la chance d'avoir ces manuels. Et le travail, l'objectif que l'on s'est fixé, mais depuis le début, c'est de bâtir à côté de ces manuels des ouvrages qui soient en cohérence, complémentaires à ces manuels. Et si vous prenez les présentations que l'on peut faire, les regroupements, on va dire, avant le brevet. Tu peux trouver des bouquins qui vont t'intéresser si tu te situes avant le brevet. Si tu prépares le tel brevet, voilà les ouvrages qui vont être utiles. Et puis, au-delà du brevet, tu es déjà pilote et donc tu veux te perfectionner, tu veux rafraîchir tes connaissances. Et donc, finalement, on essaie d'avoir une cohérence d'ensemble pour avoir, élargir la palette et avoir une offre assez riche, ce qui est, sans côté prétentieux, on peut dire qu'on a un catalogue aéronautique assez riche et qui a une bonne réputation, je crois qu'on peut se l'accorder, effectivement. Oui.
Alors, nous avons dans le studio un jeune stagiaire de troisième qui est en train de prendre des notes. Je le vois derrière, là. Ah, oui. Il y a une... avant de devenir pilote, il y a une formation que je qualifierais d'initiale. Le lien entre le système éducatif et celui aéronautique et ce brevet qu'on appelle le brevet d'initiation aéronautique. Et là, vous avez un livre spécifique sur ce BIA.
Oui, on en a même quatre historiquement, donc... le premier ouvrage à 25 ans, je l'ai découvert l'autre jour parce qu'on ne se souvient plus en fait de tout ce qu'on a pu faire. Donc il y a 25 ans, on a sorti avec un groupe d'auteurs qui étaient les intervenants à l'ENAC. Et donc on a édité cette initiation à l'aéronautique. Et c'est une de nos grandes fiertés, c'est qu'on a découvert un jour dans le journal officiel, donc pour qui relançait le BIA, qui avait déjà existé par le passé, qui relançait le BIA et qui donnait deux ouvrages référence, qui étaient le manuel avion et cet ouvrage d'initiation aéronautique, qui en fait a étalonné la formation du BIA, ce qui est assez sympathique et extraordinaire. D'ailleurs, je me souviens qu'on m'avait demandé comment j'avais fait, pour quelle intervention j'avais pu faire pour l'obtenir. Et malheureusement, non, mon réseau d'influence ne m'avait pas permis ça. C'était juste la qualité des ouvrages qui l'avait permis. Et donc, le BIA a été relancé. Et là aussi, on a élargi la palette en disant... C'est un public large, puisqu'il y a des très jeunes et des moins jeunes qui préparent le BIA. Et donc, ça nous a amené à sortir des ouvrages complémentaires, en veillant à ce qu'ils ne se cannibalisent pas les uns les autres, avec des approches pédagogiques différentes. Suivant que tu prépares le BIA quand tu es au collège, tu n'as pas besoin d'une... ou tu ne vas pas... utiliser avec le même bonheur l'ouvrage qui va être plus adapté à des lycéens, en fait. Et donc ça amène à réfléchir sur, encore une fois, l'approche pédagogique, donc confère ce que j'évoquais tout à l'heure sur la pédago. Et c'est ce qui, par exemple, a initié des ouvrages traités sous forme de bande dessinée en disant ça sera plus accessible pour des collégiens que, cela dit, après... les adultes aussi, on a sorti des ouvrages pour adultes, pilotes adultes, qui basés sur le dessin et qui ont bien aimé, les pilotes qui sont restés des enfants certainement, donc ça marche bien la BD en France.
Alors, je crois que les pilotes restent toujours un petit peu des enfants, et en fait dans le BIA, moi j'ai découvert le pack BIA, alors qui comprend, si je ne me trompe pas, hein, encore une fois je parle sous votre contrôle. Alors, il y a un livre, mon premier brevet aéronautique, oui. L'initiation à l'aéronautique et l'abécédaire de l'illustré du BIA. C'est cela, hein ?
Oui. Voilà. Oui, oui. Et en quatrième aussi, oui. Ensuite, le Moulinet, oui. Qui lui est traité, qui a été fait par un enseignant avec l'approche de l'enseignant. Et donc, les enseignants s'y retrouvent, c'est-à-dire... on a ces quatre ouvrages, effectivement, encore une fois, différents, même si l'objectif est le même, c'est-à-dire être utile à des jeunes qui préparent le BIA. Il est important que chaque ouvrage joue son rôle et qu'il soit, encore une fois, complémentaire les uns par rapport aux autres. Et aussi, c'est vrai que commercialement, bien évidemment, L'objectif est d'occuper le terrain, mais comme tout industriel doit le faire, si vous êtes, vous produisez des automobiles, vous allez chercher à avoir une palette, d'une offre qui fera que vous allez toucher le public le plus large. Et donc, il y a ce positionnement qu'il faut chercher à avoir. C'est la même démarche, effectivement.
Alors, à nos auditeurs, j'indique que l'inscription au BIA, et j'espère ne pas me tromper, mais enfin, je pense que mon information est exacte, est en cours. Hein, c'est du 26 janvier au 9 mars de cette année. Donc, ceux qui veulent s'inscrire peuvent encore s'y inscrire et donc bénéficier de vos ouvrages pour vous former dans le cadre de cette inscription. Alors, une question sur l'aéronautique. On l'a un peu abordé, le sujet, tout à l'heure. C'est un domaine qui évolue très vite sur le plan technique. On a vu cette période, la pandémie qu'on a vécue, toutes les incertitudes. Bon, je dirais là, il y a des incertitudes économiques. Mais dans cette évolution, il y a aussi l'évolution au niveau de l'Europe. Et tout ce que l'Europe, j'allais dire, apporte aussi comme contraintes dans les définitions, et vous avez dû vous adapter en fait à cette évolution par rapport aux licences, puisque aujourd'hui, alors l'objet de cette émission n'est pas de rentrer dans le détail des licences, mais il y a par exemple la licence de pilote privé aéronef léger, donc ce qu'on appelle la LAPL, la Light Aircraft Pilot License, et le PPL, la licence de pilote privé, la Private Pilot License. Et vous avez dans vos documents, donc, au niveau avion, je dirais, la déclinaison PPL et puis
LAPL. Et puis CPL au-delà pour les professionnels ou ceux qui aspirent à devenir professionnels. Il y a toute cette palette, ces niveaux, en fait. C'est-à-dire que du BIA, de l'initiation à l'aéronautique, d'ailleurs c'était le bon titre de l'ouvrage dont nous parlions, jusqu'au loisir, et au-delà du loisir, le professionnel. Et donc ce qui veut dire qu'on a un terrain de jeu, entre guillemets, mais c'est vrai qu'on y prend du plaisir, donc c'est pas péjoratif de parler de terrain de jeu. On a un terrain de jeu très très large, puisqu'on peut s'adresser à des publics différents, qui évoluent dans le temps. Hein, des jeunes qui préparent le BIA, certains ne vont plus s'intéresser ensuite à la chose aéronautique. D'autres, par contre, sont hyper motivés et vont devenir un jour un pilote de ligne, quoi, bien sûr. Hein.
Dans cette évolution, on a parlé tout à l'heure encore de formation continue. Et ce que je trouve intéressant, et j'ai toujours ce questionnement personnel, livre versus en fait tout ce que peut offrir une formation, par exemple, en ligne. J'ai l'impression que vos livres vous permettent d'être utilisés sur des problématiques précises. J'en prends un, par exemple, « Enseigne-moi la navigation ». C'est-à-dire que quelqu'un qui a envie de s'intéresser à la navigation, on va trouver ce livre. Il y en a d'autres. Hein, si je prends par exemple « Technique du vol et de l'atterrissage en montagne ».
Ouais.
Et c'est là, personnellement, je voudrais un petit peu, non pas votre avis, parce que votre avis, bien évidemment, vous l'avez, votre expertise, et vous allez nous apporter votre expérience dans ce domaine. Il me semble que quand on voit des QCM, par exemple, en ligne, alors des QCM adaptés sur les concours ou sur les examens, il y a beaucoup de QCM qui sont demandés sur les examens, il n'empêche qu'il y a des domaines très spécifiques dans la formation aéronautique et la formation du pilotage qu'il est difficile d'extirper de QCM. D'où peut-être l'intérêt d'avoir ce créneau livre-papier que vous maintenez jusqu'alors.
Oui. Alors c'est vrai que les QCM, ça c'est l'influence américaine, c'est parfois contesté, mais ça a le mérite de la simplicité. On va faire passer un examen et donc on vous donne quelques questions, vous allez y répondre plus ou moins bien et suivant le pourcentage que vous obtenez, vous avez l'examen ou ne l'avez pas. Donc c'est critiquable, c'est confortable, mais critiquable. Donc nous, bien évidemment, on doit tenir compte de ces, euh, de cette manière de procéder. Et ce que l'on cherche à faire, quand même, c'est d'aller au-delà. Et ça fait des années qu'on a des livres, des QCM, en fait. Et la plus-value qu'on a cherché, que l'on cherche à y apporter, c'est de dire on ne veut pas du bachotage, on ne veut pas que l'élève travaille, je ne dirais pas bêtement parce que c'est péjoratif, mais il faut aller au-delà. Et donc, pour illustrer ce que je dis là, c'est que si vous prenez par exemple un ouvrage, les questions avion par exemple, chaque question est articulée autour d'un mot-clé du manuel avion. Le but étant de dire à l'élève, à l'apprenant qui bûche sur son bouquin, de dire soit tu as répondu bien, mais un peu par hasard, mais ça tu es face à toi, donc c'est à toi de le reconnaître. Et si tu ressens le besoin, et il faut que tu le fasses, de te perfectionner, repère le mot indexé et reviens, va dans le manuel avion où le mot est indexé, qui va te renvoyer en page 58. Il faut que tu révises ce point-là. Et ces deux ouvrages qui se répondent en écho, c'est-à-dire le manuel de référence, que ce soit l'ULM ou que ce soit le manuel avion, et les ouvrages QCM, avion, QCM, ULM ou drone, par exemple. Donc à chaque fois, on a cherché cette plus-value, cette cohérence en disant tu vas bosser, tu vas bûcher, tu vas t'embêter, pour ne pas employer un terme toulousain plus imagé et un peu plus trivial, mais au moins essaie de le faire intelligemment parce que c'est ton intérêt. Quoi. Puis accessoirement, après, quand tu piloteras, tu te retrouveras en l'air et donc il vaut mieux que tu aies de ton côté toutes les meilleures chances pour t'en sortir et ne pas avoir de problèmes graves. Donc, il vaut mieux travailler intelligemment sur ces sujets-là, quoi. Voilà, ça, c'est le travail aussi de l'éditeur, c'est-à-dire de... Encore une fois, c'est le mot que j'utilise très, très souvent, c'est la recherche de la cohérence, en tout cas. En tout cas, essayer de désamorcer les objections et de dire, ah oui, mais regarde, voilà ce qu'on te propose, voilà pourquoi on a fait ceci... Pour qu'on a fait ce choix-là, en tout cas, on a cherché une cohérence. Après, on n'y arrive pas, mais en tout cas, c'est ce qui nous motive.
Alors, je sens, moi, dans votre réponse, ce désir de maintenir cette voie papier. Et vous venez de oui. Le dire. Hein. C'est vrai que l'aéronautique, dans le cadre de la formation, vous parlez de bachotage. C'est vrai qu'il y a des examens où le bachotage est nécessaire, les QCM, etc., etc. Et ce que je trouve intéressant dans votre réponse, c'est justement ce pilote. Quand il est en l'air, le bachotage est terminé. Quoi. Je veux dire, il faut appréhender le monde qui est autour de son environnement cockpit et puis comprendre les choses.
Oui, si je vous demande est-ce que tu as compris, il ne faut pas se contenter de la réponse oui. Quoi.
Voilà. Et ce qui est intéressant aussi dans votre catalogue, alors il y a bien évidemment le lien avec les formations dont on a parlé, les licences, mais il y a également des aspects plus techniques parce que bien évidemment les cockpits évoluent, mais même avant l'évolution des cockpits, je pense par exemple au calcul mental. Un pilote doit faire quelques calculs, même si aujourd'hui les moyens dont on dispose sont tels que le calcul mental diminue. Mais vous avez, si je ne me trompe pas, un ouvrage sur le calcul mental. Hein.
Mais ça justement, c'est un trou dans notre catalogue parce qu'on a pas mal de manques. Hein. Et c'est vrai qu'on n'en avait pas, ce type d'ouvrage. Et donc, on l'a sorti il y a peu de temps, c'est récent. Et c'est surprenant d'ailleurs de voir comme le public concerné donc, a répondu. C'est un ouvrage qui fonctionne très bien, donc le besoin y était. Et donc, c'est un ouvrage qu'il aurait fallu publier il y a déjà longtemps. Mais bon, on ne peut pas tout faire non plus. Donc oui, c'est important ça.
Alors, il y a le calcul mental, il y a également la question, l'aérodynamique. Et la mécanique du vol.
Alors je dirais, on peut faire peut-être des classements, il y a les sujets purement techniques et des ouvrages qui relèvent plus du ce que l'on appelle le facteur humain. Et donc lié à la sécurité. Et ça, c'est un créneau que l'on a toujours cherché à développer. Et je dis bien chercher à développer parce que c'est très difficile de le matérialiser, en fait. Parce que les auteurs, les bons auteurs potentiels sur ces créneaux-là sont rares. Et il est très difficile. Il ne suffit pas d'être volontariste, quoi, quand vous êtes éditeur, pour dire « Yaka, débrouille-toi, il faut qu'on sorte un bouquin sur tel sujet. » Oui, mais encore faut-il trouver, encore une fois, le bon auteur, et le qualificatif de bon, là, n'est pas anodin, quoi, hein. Donc, il ne suffit pas d'avoir un auteur, quoi, et il faut faire un ouvrage, éditer un ouvrage pertinent, au final. Pertinent, percutant, efficace, et qui répond à l'attente du public. Et donc, on sort de plus en plus de nouveaux titres sur ce sujet-là, et ça, c'est une de nos fiertés, parce que c'est un sujet qui est difficile à traiter, plus difficile que certainement que l'explication, je sais pas, d'un vore, par exemple, ou même de la météo, même si l'approche pédagogique n'est jamais simple. Mais quand on touche à l'humain, donc c'est vrai que c'est délicat à traiter.
Alors, si vous le permettrez, M. Marceau, on y reviendra après cette pause, parce qu'on va faire maintenant une pause musicale, Vous savez que ce choix vous appartient. Ah, oui. Alors, qu'avez-vous choisi ?
Alors, j'ai choisi... un morceau de notre siècle, donc de Dario Moreno, ça fait très ancien, mais j'assume complètement, qui me fait très plaisir chaque fois que je l'entends. C'est un personnage qui, je ne sais pas pourquoi, qui m'a toujours plu. C'est peut-être sa rondeur qui en faisant référence à la mienne, et donc c'est sa puissance vocale, son entrain, son professionnalisme, et donc voilà, puisque c'est un chanteur de notre siècle, je vais employer un qualificatif de notre siècle, du XXe siècle, je le trouvais pas tant. Voilà, c'est un terme qu'on n'utilise plus, mais voilà, donc c'est un terme de l'époque.
Alors nous écoutons Dario Moreno.
Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui que naguère Paris, je te reviens encore. Deux fois je suis venu déjà, j'avais de l'or dans ma valise. Des diamants dans ma chemise, combien a duré tout cela? Le temps d'avoir 200 amis et de mes 4 ou 5 mètres et 6 mois de galantes ivresses. C'est plus rien en Paris. En 6 mois tu m'as tout raflé, et puis vers ma jeune Amérique, tu m'as pauvre mélancolique délicatement emballé. Je brûlais de revenir et là-bas sous mon ciel sauvage, je me répétais avec rage, une autre fortune en mourir. Je ne suis pas mort, j'ai gagné tant bien que mal de somme volée. Je viens pour que tu me voles tout ce que là-bas j'ai volé. Tout ce que là-bas j'ai volé. Tout ce que là-bas j'ai volé. Oh. Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui que naguère Paris, je te reviens encore. Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Paris, je te reviens encore. Hurra, hurra, hurra. Je viens de débarquer, mettez vos faux cheveux cocottes. Hurra, 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 j'apporte à vos canottes toute une fortune à croquer. Le pigeon vient plumer, prenez mes dollars, mes banknotes, ma montre, mon chapeau, mes bottes. Mais dites-moi que vous m'aimez. À moi les chaises et les riz et les danses cavalières. À moi les nuits de Paris, comme mène en bal d'anière. Sache-le bien seulement, car c'est là ma nature. J'en prendrai pour mon argent, je vous le jure. J'en prendrai pour mon argent, j'en prendrai pour mon argent. Venez, venez.
Alors venez, venez, nous sommes de retour dans l'Oiseau Blanc avec Jean-Pierre Marceau, président des éditions CEPADUES, et nous venons d'écouter Dario Moreno. Et Dario Moreno, finalement, le pauvre, il est décédé d'une hémorragie cérébrale avant le décollage de son avion à Istanbul.
Oui.
J'avoue l'avoir découvert. Donc on a trouvé finalement un lien avec l'aéronautique. Alors, Monsieur Marson, avant notre pause, vous abordiez la question des facteurs humains. Et permettez-moi de revenir sur ce point parce que vous l'avez soulevé, la question des facteurs humains est extrêmement importante et en particulier dans le domaine aéronautique et dans le domaine du pilotage. Pourriez-vous nous présenter de manière, si vous le permettez, un peu plus précise ce que vous proposez à ce niveau-là des facteurs humains dans votre catalogue et peut-être aussi vos objectifs dans ce domaine?
Oui. Alors effectivement, ce sont des sujets qui ne sont pas faciles à traiter, mais c'est aussi une obligation, d'abord parce qu'il y a maintenant une prise de conscience générale. Il faut rappeler quand même que c'est l'industrie qui a été la première à se préoccuper du facteur humain. Hein, c'est-à-dire que l'opérateur qui est devant son four, d'aller au fourneau à 4 heures du mat, on savait que c'était là que le danger était le plus grand. Et donc, il faut rendre à l'industrie ce mérite-là, donc de s'en être préoccupé. Et peut-être que l'aéronautique y est venue un peu tardivement, en tout cas plus tard que l'industrie, de fait, sans jugement de valeur. Je disais que la difficulté, c'était de trouver des auteurs. Et donc là, on a trouvé quelques bons auteurs, pour reprendre mon expression, qui nous ont permis de sortir assez récemment, dont par exemple le pilote acteur de sa sécurité, faire prendre conscience au pilote qu'il faut qu'il s'occupe certes de sa machine, faire la checklist de sa machine, mais aussi se préoccuper de lui, quoi. Les compétences non techniques, ça c'est un ouvrage à paraître. Compétences non techniques et la gestion de la peur aussi, la représentation mentale. Donc tous ces sujets-là, on arrive ouvrage après ouvrage à les traiter. Et c'est d'autant plus pertinent que l'Europe, donc vous parliez de l'influence de l'harmonisation européenne, donc les règles européennes insistent de plus en plus sur cet aspect-là. Donc ça, c'est un passage obligé, donc même si nous n'étions pas motivés pour le faire, eh bien je dirais presque qu'on serait obligé de le faire parce que c'est nécessaire, donc à plusieurs titres. Donc voilà, donc ça c'est un chapitre, une partie de notre catalogue qui s'étoffe et j'en suis ravi, quoi. Et donc un appel aux auteurs potentiels, on est preneur de contact, appelez-nous pour en parler si vous estimez être un auteur potentiel sur ces sujets-là.
Alors cet appel que vous venez de faire me permet de poursuivre sur une question, c'est-à-dire qu'un auteur, donc c'est valable bien évidemment sur le domaine aéronautique, mais sur d'autres, comment on vient frapper à votre porte? Et j'ai cru voir dans votre catalogue un livre spécifique finalement sur cette question, l'auteur qui veut venir vers vous. Je me trompe?
Oui, non, ça c'est effectivement, c'est juste une main tendue aux auteurs potentiels. Pour trouver les auteurs, il y a plusieurs possibilités. Il y a d'abord ceux qui nous sollicitent parce qu'ils nous connaissent, ils savent que on édite déjà des ouvrages sur leur créneau et donc ils nous sollicitent, mais comme on peut solliciter toute maison d'édition. Et puis il y a notre rôle d'éditeur, c'est-à-dire chercher des auteurs, et donc il faut tendre la main à chaque fois. Il faut lancer un appel, il faut pas rater une occasion de le faire, hein, parce que parfois des auteurs n'osent pas, de futurs auteurs vont vous dire « mais moi je n'osais pas proposer, je pensais pas que ce que j'avais fait pouvait intéresser le lecteur ». Langage que me tenait par exemple Jean Zilio, qui est un auteur de référence chez nous, et qui me disait que c'était la pression amicale de ses élèves qui a fait qu'il a sollicité une maison d'édition, en fait. Donc Donc il faut vraiment aller au-devant, les susciter ceci. Alors ce qui nous permet aussi de le faire, c'était, puisque avec la pandémie c'est un peu plus compliqué, les salons. Et donc quand on va sur les salons, on va à la rencontre du public, ça c'est le grand intérêt des salons, et puis aussi de professionnels, je parlais de réseau au tout début de notre entretien, étoffer ce réseau, ces recommandations, des gens qui vont nous conseiller de solliciter telle ou telle personne, ou qui vont dire à leur ami, mais tu devrais appeler CEPADUES, ça va les intéresser. Donc il y a tout ce processus à mettre en œuvre, en tout cas, même pas à mettre en œuvre, à cultiver. Et les salons, pour cela, encore une fois, c'est excellent pour étoffer ce réseau, et puis aussi aller au-devant de nos lecteurs, bien évidemment.
Alors, je disais tout à l'heure, en début d'émission, Toulouse, l'aéronautique est au cœur de Toulouse. Est-ce que vous... Alors j'allais dire profiter, il n'y a pas de terme, il n'y a pas de vue péjorative dans ce que je vais dire, mais est-ce que vous utilisez justement ces moyens disponibles? Je pense aux écoles scientifiques, je pense à l'ENAC, à l'ISAE par exemple, et je rappelle que le Moulageau Blanc, j'ai accueilli donc le directeur de l'ENAC et le directeur de l'ISAE. Ce sont peut-être des points d'entrée intéressants ou comment
faites-vous ? Ça, c'est un sujet douloureux pour moi parce que CEPADUES avait un partenariat historique avec Supaéro. On a été longtemps l'éditeur de Supaéro, donc ensuite directeur après directeur. C'est vrai que les choses ne sont pas simples et donc ce partenariat avait cessé, mais ça, c'est dommage. On a édité des ouvrages emblématique dans la collection de Supaéro, qu'on a d'ailleurs pour certains encore notre catalogue, c'est assez extraordinaire. Et avec l'ENA, qu'on avait passé un accord et qui commençait à très bien fonctionner, mais comme dans d'autres secteurs, l'ENA a dû se rapprocher d'une autre structure concurrente d'ailleurs, et qui a fait que l'accord que l'on avait avec l'ENA a été caduc, n'a pas pu perdurer. Alors ça, c'est regrettable, mais là, je parle en tant qu'ancien conseil d'entreprise. J'ai souvent parlé de politique éditoriale aux établissements de formation, que ce soit une université, que ce soit encore une fois une école d'ingénieurs. Et ce n'est pas assez pris en compte, en fait, la politique éditoriale. Et quand on la prend en compte, il y a une contrainte qui est absolue. Il faut s'installer dans le temps long. Une collection d'ouvrages ne vaut une collaboration, c'est-à-dire si vous mettez votre label de grande école sur une collection d'ouvrages, il ne faut pas se projeter sur les 2 ans à venir. Il faut se projeter sur le temps long. Alors ça, c'est non pas difficile à faire passer comme message, parce que c'est vrai que ça relève du bon sens. Quand on y réfléchit, on peut dire « ben oui, c'est vrai, tu as raison, ça paraît raisonnable ». Mais dans le temps long, ça veut dire que vous allez avoir un directeur, ensuite un autre directeur, un nouveau directeur, peut-être des problèmes internes à telle structure qui font que, ou des changements politiques, hein, c'est ce que j'évoquais à l'instant, qui fait que ça fragilise en fait une politique éditoriale. Et ça, c'est dommage parce que il y a matière à faire pour crédibiliser, en fait, pas crédibiliser, pardon, pour renforcer la place que peut avoir un établissement de formation. Quand on signe transmettre les savoirs, on est en cohérence totale avec ce que fait une grande école, une université, c'est une évidence absolue. Mais encore faut-il qu'il y ait une rencontre entre des hommes qui c'est souvent la question de rencontre, en fait. Il faut que ça matche, il faut que ça le fasse, comme on dit vulgairement. Mais encore une fois, il faut que ça s'instaure dans le temps long, en fait, voilà. Donc ça fait partie des choses de la vie, des réussites. Et puis ensuite, eh bien, ma foi, les choses évoluent. Il faut s'adapter, voilà. Il faut avoir cette souplesse-là. Mais ce n'est pas pour autant que que je vais mettre de côté mon esprit critique, quoi, surtout sur un sujet comme celui-ci.
Oui, alors ce qui est intéressant, vous parliez du temps long dans notre monde qui est aujourd'hui confronté de plus en plus à l'immédiateté. Et d'ailleurs, je crois que c'était avant-hier, il y avait un article dans le Monde sur ce sujet. Et toujours en vous écoutant, il m'est venu, moi, l'image de l'étudiant que j'ai été dans la bibliothèque de l'école. Et sur des livres scientifiques, je dirais, il y avait ce plaisir d'aller retrouver même un livre ancien, de le feuilleter. Alors, est-ce que vous considérez que, vous avez bien dit, les savoirs tout à l'heure, est-ce que le savoir se retrouve plus facilement dans le livre aujourd'hui que dans une recherche, en ligne?
Alors, d'abord, le livre a une, s'il est bien conçu, s'il est solide, il a une vertu, c'est qu'il a sa cohérence propre. Il s'adresse d'abord, comme tout acte de formation, il s'adresse à un public déterminé avec des prérequis. Et en disant, je vais t'amener à tel niveau, et pour t'amener à tel objectif, je vais avoir recours à des moyens pédagogique, une méthode pédagogique, et donc il y a une cohérence d'ensemble. Et là aussi, c'est vrai qu'intellectuellement, on l'entend, quoi, donc l'ouvrage, c'est tu ne vas pas picorer dans un ouvrage, sauf si tu révises, que tu l'as déjà bûché, que tu te l'es déjà approprié, tu peux aller picorer à tout tel ou tel endroit. Mais l'ouvrage est fait pour l'apprenant qui part de tel niveau pour arriver à tel autre niveau. Et encore une fois, l'auteur a mis tout son savoir et son savoir-faire pédagogique pour vous y amener le plus facilement possible. C'est facile à dire, d'autant plus que une difficulté, c'est que, évidemment, on s'adresse à des publics variés. Si on prend par exemple le manuel du pilote, vous pouvez avoir un élève ingénieur de super-héros qui prépare le brevet, donc une mécanique intellectuelle assez remarquable. Et puis, vous allez avoir le retraité de 60 et quelques balais que l'on voit sur les salons et qui nous dit, eh ben moi, ça y est, je peux enfin apprendre à voler parce que ça a été mon rêve toute ma vie. Mais alors vraiment, j'ai du mal, quoi, parce que j'ai pas ouvert un bouquin depuis très très longtemps. Ça, c'est le retour d'expérience. Hein. Et donc, mais c'est le même bouquin, c'est le même ouvrage qui va s'adresser, que l'on va faire, que va utiliser cette mécanique intellectuelle l'étudiant, et puis le retraité qui va dire non, mais moi je suis pas une mécanique intellectuelle. Quoi, j'ai du bon sens, ça oui, ça me va bien, mais je vais avoir du mal, quoi. Et donc, mais c'est la difficulté, le challenge du formateur, en fait, donc de l'auteur, du pédagogue.
Parce que j'ai eu cette discussion très, très récemment avec un pilote, justement, qui a passé son brevet sur le tard. Et ce que vous venez de dire est tout à fait pertinent. Alors, il nous reste environ un quart d'heure. Je voudrais profiter de ce dernier quart d'heure pour élargir un petit peu la palette de vos productions, mais avant, pour faire le lien avec ce que nous venons de dire, vous avez beaucoup de livres, en fait, hein, sur le pilotage. Je prends simplement l'exemple, votre catalogue pilotage et loisirs aéronautiques, le nombre de documents est conséquent, hein. Il se divise l'avion, il y a le PPL, l'ULM, le planeur, drone, modélisme, montgolfière, hélicoptère.
Je ne sais même pas combien il y en a,
etc. Alors, très pratiquement, la gestion du livre, la gestion du papier. Alors, je vais reprendre un élément de votre accroche, hein, votre accroche publicitaire. Vous dites expédié dans les 48 heures, et ce qui m'a intéressé, c'est que vous dites commandé avant 16 heures, expédié le jour oui. même. Alors comment faites-vous pour satisfaire le client aussi, excusez-moi, j'allais dire aussi facilement?
Alors, et d'autant plus qu'on est une toute petite équipe, hein, mais avec effectivement une certaine motivation, une motivation forte. Et donc, ça, c'est important. Et puis surtout, ce qui est important, c'est qu'on a toujours fait le choix de nous diffuser et de nous distribuer nous-mêmes. Et ce qui fait que c'est les ouvrages, les colis partent de chez nous. C'est-à-dire que ce soit un libraire qui nous commande, que ce soit un particulier qui nous commande, les ouvrages partent de chez nous. C'est nous qui faisons les colis. Et s'il faut aller dans les stocks, s'il faut aller en salle d'expédition pour préparer les colis, s'il le faut, on va être tous volontaires. On va pas dire, mais moi je suis président, tu penses bien, je vais pas aller préparer les colis, quoi.
C'est donc
pas
on préparait les colis aussi.
Donc, on a aucune honte. Non, on a la fierté de dire que nous sommes très très polyvalents et qu'on est là pour s'entraider. Et c'est là le terme d'esprit d'équipe, effectivement, prend toute sa matérialité, quoi, en fait. Hein, donc, là, oui.
Alors. Cela veut-il dire que tous les livres qui sont aujourd'hui sur votre catalogue, ils sont édités en fait ? Vous les avez disponibles ?
On a des stocks, oui. Si vous nous rendez visite, je vous ferai visiter. Quoique les visites industrielles, vous savez que c'est très tendance, hein, et donc on ne visite pas que Airbus. Vous pouvez visiter aussi, c'est pas du S, nous on vous fera pas payer quand même. Et donc vous allez voir, je parlais de la salle d'expédition là où on prépare les colis en fait. Et puis les stocks, ce sont des rayonnages avec des palettes de bouquins. Le président que vous avez devant vous a passé l'an dernier son CACES, ça parlera à certains, c'est un permis pour conduire les chariots élévateurs, et parce que si vous voulez monter une palette ou descendre une palette, il faut avoir le diplôme qui va bien, hein. C'est pas la PPL ou l'APL, mais il faut le CACES pour cela, quoi. C'est le même principe.
Mais vous avez quand même une contrainte à ce niveau-là. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure, l'aéronautique évolue et donc tous les thèmes que vous abordez, enfin, pas mal de thèmes, il y a une évolution quand même au cœur de ces thèmes. Donc vous avez un livre qui est sur vos étagères et puis paraît une nouveauté. Donc j'ai regardé par exemple vos dernières nouveautés 2021. Qui est en ligne, hein, sur votre site, il y a quand même un certain nombre de nouvelles éditions.
Oui.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas une perte en ligne quand même de toujours disposer de livres ? Lorsque vous avez une nouvelle édition, l'ancienne qui est sur l'étagère, qu'est-ce qu'elle devient ?
On se débrouille en général, on se débrouille assez bien. On a la chance d'avoir très peu de pilons. Je dis la chance, mais ça, c'est pas uniquement dû à notre talent, qui est certain, bien évidemment. Non, c'est dû au fait que nous éditons des ouvrages qui s'inscrivent quand même dans la durée. Un ouvrage mécanique, vous n'avez pas trop de soucis. Mécavol, l'ouvrage va, dans 20 ans, sera encore bon, certainement. Et puis, un ouvrage comme les manuels, qui doivent évoluer, s'enrichir parce que les réglementations évoluent. Vous allez avoir sur notre site un onglet avec des mises à jour, des additifs réglementaires, par exemple, que l'on va mettre sur notre site pour garder l'actualité aux anciennes éditions. Et donc, ça veut dire que si tu m'achetais la 18e édition du manuel avion, tu peux trouver sur notre site les additifs réglementaires qui te permettent de mettre à niveau ton ouvrage, attendu que nous en sommes à la 19e édition pour le manuel avion, que évidemment on sortira dans je ne sais pas combien de mois, on sortira une 20e édition. Donc ça fait partie, je plaisantais en parlant du talent, mais c'est vrai que ça fait partie aussi du savoir-faire d'une maison d'édition. Et puis aussi pour éviter ces risques de pilonnage intempestif, il faut essayer d'arrêter les tirages qui soient les plus raisonnables possibles, en fait. Et ça, c'est la difficulté, parce que dans le marché du livre, on est sur le marché de l'offre par excellence. C'est le marché qui ce sont les clients, qui les lecteurs qui disposent. Hein. Nous, éditeurs, on propose. Hein. On peut être persuadé, évidemment, que le bouquin va fonctionner, que tout le monde attend l'ouvrage, mais évidemment, c'est le client qui a raison, quoi. Et, Et parfois, quand un ouvrage ne marche pas et qu'on se dit, eh ben, si c'est à refaire, je referai pareil, eh ben, voilà, c'est aussi une leçon d'humilité, mais qu'il faut accepter parce que c'est dans l'ordre des choses. Et si c'était si facile que ça que d'éditer, évidemment, il y a beaucoup plus de monde qui éditerait des ouvrages et on aurait encore plus de mal. Donc la difficulté permet aussi de sortir du lot, certainement.
Alors, on a passé une partie importante de l'émission sur la question aéronautique. Et comme je le disais, je ne veux pas manquer d'aborder les autres, vos autres catalogues. Hein. Oui. Je pense aux mathématiques, physique, mécanique. Vous avez aussi un autre catalogue, je crois que vous avez intitulé « Collection du Midi ». En fait, quels sont les autres couleurs sur la palette de vos éditions?
D'abord, historiquement, CEPADUES a d'abord été un éditeur d'ouvrages en sciences dures, en fait, en mécanique, en mathématiques. Et c'est par la suite que l'aéronautique s'y est greffée, un petit peu par hasard d'ailleurs, mais bon, le hasard fait bien les choses, puisque être éditeur aéronautique basé à Toulouse, bon, ça ne fait pas tâche, quoi, hein, c'est pas trop mal. Et d'ailleurs, c'est amusant d'entendre parfois, oui, non, mais vous, c'est normal, vous êtes à Toulouse, donc c'est normal que tu sois éditeur aéronautique. Pour un peu, t'as pas de mérite, quoi, hein, t'as qu'à te baisser pour ramasser, quoi. Donc ça marche pas comme ça, quand même.
vous l'avez bien dit, là.
Et donc voilà, science exacte, science dure. Et alors ça, c'est une bonne école parce que ça vous impose, à vous, éditeur, un niveau d'exigence. C'est-à-dire que sur ce créneau-là, vous ne pouvez pas sortir des ouvrages approximatifs ou si vous le faites, vous n'allez pas le faire longtemps, quoi, hein, parce que ça va se savoir que vos ouvrages ne sont pas de qualité. Il faut être reconnu comme éditeur d'ouvrages de référence, ce qui est le cas de CEPADUES, je crois. Là aussi, on peut le dire, parce que c'est vrai, quoi. Donc, c'est sciences exactes, physique, mathématiques, informatique, intelligence artificielle. On a été d'ailleurs le premier éditeur français à initier des ouvrages à l'intelligence artificielle. Il doit y avoir 40 ans de ça facilement, je crois, oui, à peu près. Et puis le chapitre qui est beaucoup plus récent sur le développement personnel, ça c'est une opportunité, comme c'est souvent le cas. Et donc c'est un créneau qu'il me plaît de développer parce qu'on y prend du plaisir. Et c'est d'abord le plaisir qui nous stimule et qui nous motive. Et donc, puisque ça marche pas trop mal, on peut penser qu'on peut y trouver notre place et que c'est pas, là aussi, en termes trivial, c'était pas déconnant d'aller sur ce créneau-là, quoi.
Oui, puis je crois que de manière complémentaire aux mathématiques, physique, mécanique et autres, parler un peu de philosophie, c'est peut-être pas mal dans notre oui. monde d'aujourd'hui.
Oui, oui, oui. Et puis d'ailleurs, on l'entend de plus en plus que, ben, on évoquait les écoles d'ingénieurs et vous avez vu que les écoles d'ingénieurs donc commencent à se préoccuper là aussi du facteur humain finalement.
C'est ce que j'allais vous dire. Oui.
Voilà. Alors qu'on pourrait dire non, mais attends, c'est une évidence absolue. Avant d'être un ingénieur en ceci, en cela, tu es d'abord un humain qui va s'adresser à des humains. Regardez, il y a des films qui sortent actuellement sur le cynisme que l'on peut avoir et qui existe bien évidemment dans le monde de l'entreprise, tout simplement parce que les conditions sont économiques sont tellement dures qu'effectivement, sans faire d'analyse transactionnelle, il y a des réactions, quoi, en fait, qui font que on peut tomber du mauvais côté, en fait. Et donc on se dit, ben, donc il faut peut-être évoquer des valeurs, mettre en avant des valeurs humaines, parce que je dirais presque on en a économiquement besoin, quoi, en fait. Hein, si on veut rester cynique, on peut dire ça, quoi. Hein, donc,
oui, puis je voilà. dirais que nos jeunes qui nous entourent ont certainement besoin aujourd'hui de ces valeurs humaines dans ce monde qui est parfois très dur. Hein.
Oui. Oui, certainement. Donc là, on est tout à fait à l'aise pour argumenter, pour dire eh bien, qu'on estime que ce chapitre-là a sa place entière, totale, à côté des autres chapitres.
Alors ces différentes places dont on vient de parler, est-ce que vous êtes ouvert aujourd'hui à toute proposition en matière d'édition, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient d'écrire son roman ou qui vient de faire son petit recueil de photographies avec quelques pensées liées à chaque photo, est-ce qu'il peut venir frapper à votre porte et
si non, ça, il faut l'éviter. Alors évidemment, on peut ce qu'on a fait là, donc on peut développer un nouveau chapitre, mais cela veut dire que il faut s'y investir. Ça demande énormément d'énergie. On ne parle même pas d'argent à ce stade-là. Ouais. C'est, j'aime souvent à dire qu'il y a plus cher que l'argent, quoi. Et donc, toute l'énergie, le chapitre développement personnel nous demande encore effectivement beaucoup d'investissement, d'énergie, d'investissement personnel, je veux dire, d'énergie. Mais il faut chercher quand même à avoir cette cohérence d'ensemble. Le roman, c'est un autre métier. Si on disait, j'ai fait un ouvrage sur des recettes de cuisine, eh bien, justement, il y a des confrères qui sont spécialisés sur ces créneaux-là. Il faut que vous alliez les voir. Et c'est eux qui, ce sont eux qui défendront le mieux votre ouvrage et qui le porteront le plus efficacement, quoi.
Donc, on peut considérer aujourd'hui que votre offre arrive à je ne parle pas en quantité par rapport au catalogue existant, mais il est certainement difficile d'aller plus loin, vous venez de le dire, sur d'autres catalogues, romans ou autres.
Après, c'est une question d'opportunité. Si on a déjà racheté des maisons, des petites maisons d'édition, imaginez que demain nous rachetions une autre structure, on sera, parce que ça nous paraît intéressant, cela nous ouvrira des perspectives, en fait. On a racheté deux maisons, en fait, deux petites maisons, donc pourquoi pas une troisième. Et donc peut-être que la vérité d'après-demain ne sera plus la même que celle, de toute façon par définition, ça ne sera plus la même que celle d'aujourd'hui, quoi qu'il advienne de toute façon.
Alors le temps va vite, hein, nous arrivons à notre heure de l'émission. Vous venez de parler des maisons d'édition. Vous avez un classement, je crois, de votre maison d'édition dans...
Ah oui.
Vous êtes référencé, hein, de manière...
Oui, c'est vrai qu'on finalement, nous ne sommes pas très connus. Si dans Toulouse, vous demandez, vous faites un micro-trottoir, on va vous dire c'est pas du S, donc je ne connais pas du tout. Donc, alors qu'en fait, on fait partie du patrimoine aussi toulousain et qu'on est classé dans... dans le classement de Livre Hebdo. Livre Hebdo, c'est la revue professionnelle du livre, des bibliothèques, des librairies, des éditeurs, et donc qui établit un classement qui est basé sur il y a plusieurs classements sur le nombre de parutions annuelles. Nous, on sort à peu près 40 et 50 nouvelles éditions par an. Et donc on est forcément avec ce nombre-là, on est dans le classement. Et puis il y a l'autre classement qui est fonction du chiffre d'affaires, et avec un chiffre d'affaires qui, on dira hors période de Covid, se situe aux alentours du million d'euros à peu près, fait qu'on se retrouve régulièrement dans le classement de Livre Hebdo, c'est-à-dire dans les 200 premières maisons d'édition indépendantes françaises, bien évidemment, je parle du marché français. Je crois que dans le dernier, on doit être au 85e rang ou quelque chose comme ça. Et donc, je veux dire par là que c'est tout à fait honorable pour une, somme toute, une petite structure. On n'est pas un monstre de l'édition, bien évidemment, mais une maison indépendante qui, surtout, traverse le temps et finalement les décennies, plus de 50 ans. Hein. Là aussi, on s'inscrit dans le temps long et on y a toute notre place, même si on n'est pas suffisamment connu, mais c'est certainement notre faute. Hein. De communicants, certainement.
Non, mais je crois que vous nous avez montré aujourd'hui qu'en matière de communication, nous savons faire et vous savez faire.
On peut en parler, en tout cas.
Bon Jean-Pierre, nous voici malheureusement déjà à la fin de cette émission. Je vous remercie de nous avoir fait découvrir vos éditions CEPADUES, votre lien avec le domaine aéronautique et puis les enjeux plus globaux auxquels une telle activité comme la vôtre est confrontée. Nos auditeurs auront sans nul doute compris que vous faites partie de celles et ceux passionnés par leur métier et qui doivent s'adapter à des exigences devenues de plus en plus difficiles à affronter. Monsieur Marsan, je vous laisse conclure par rapport.
Ma conclusion sera simple, un mot, c'est merci, tout simplement, et pas mille merci, merci. Et merci à ceux qui nous écoutent, et ils peuvent aller sur cepadus.com voir ce que nous produisons.
Merci à vous, monsieur Marsan. C'était L'Oiseau Blanc, une émission de Philippe Trousselard, avec à notre veille technique notre dévoué Tiphaine Lemaine qui me fait un petit signe. Vous pourrez retrouver cet enregistrement de L'Oiseau Blanc ainsi que tous les précédents sur le site de la station, mais aussi grâce aux pages Facebook de l'émission et de la radio. N'oubliez pas par ailleurs qu'Esprit Occitanie dispose désormais de ses applications Apple et Android. Dans une prochaine émission, j'accueillerai Fabien Laval, qui vient très récemment de terminer sa carrière de pilote à Air France. Il a été pilote commandant de bord long courrier sur ce qu'on nomme 777, c'est-à-dire Boeing 777, 300 à 470 passagers. Avec lui, nous essayerons de démystifier ce métier avec comme fil conducteur de notre entretien, le rêve et la passion. À très bientôt avec L'Oiseau Blanc.